Journaliste, presse, médias,
investigation,
rédaction,
information,
objectivité,
sociologie,
scoop, collège,
Gaston Calmé,
De Grandbeau,
De Maringamon.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Djelloul Belghit, directeur régional de Guadeloupe La Première, qui a bien voulu répondre à nos questions.
On n'a pas trouvé grand-chose sur vous sur Internet. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors c'est normal que tu n'aies pas trouvé grand-chose, parce que je fais assez peu d'antennes, je n'en fais pas du tout même. Alors Djelloul Belghit, je suis directeur régional de Guadeloupe La Première. Un peu comme Lise, j'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse grâce à mon papa qui était diplomate. Donc j'ai pu vivre dans plusieurs pays. Donc tout ce que tu as dit, Lise, a fait beaucoup écho en moi en t'écoutant parler. Et alors moi, j'ai fait des études de gestion et de droit à la faculté. Mais dans ces études-là, ce qui m'a le plus intéressé, c'était justement tout ce qui était sciences sociales. Il fallait faire des maths, de l'économie, c'était intéressant. Mais ce qui m'avait intéressé, c'était de comprendre le monde quand on fait de l'économie ou du droit. On touche à la philosophie, on touche à comment fonctionne le monde. Et c'est ça qui m'intéressait. Et du coup, un peu naturellement, dans mon parcours, ben, je pense que j'ai pu évoluer et glisser progressivement vers les médias sans le savoir. Mais ça m'intéressait d'aller vers des métiers où on comprend le monde, où on comprend les gens. Voilà, donc c'est pour ça, tu vois, dans ma carrière, après mes études de gestion, j'ai fait de la gestion. J'ai fait des finances, j'ai été contrôleur de gestion, j'ai été responsable administratif. Mais très vite, dans ces métiers, je me suis un petit peu ennuyé, parce que faire des tableaux de bord, signer des contrats, rédiger des contrats, faire des textes, ça m'a amusé un petit temps, et puis très vite j'avais besoin d'aller au-delà. Et j'ai eu la chance un jour d'être appelé, je cherchais du travail, et un peu par hasard j'ai été appelé par une agence de recrutement qui me dit « on a un poste à RFO à l'époque ». Et la dame, j'étais à Paris à l'époque, et elle se trouve obligée de m'expliquer ce qu'était RFO, sauf que moi dans ma tête je savais déjà ce qu'était RFO. Et en fait, quand elle m'a dit RFO, c'est un peu comme si le monde s'était ouvert devant moi. C'était la diversité, c'était la connaissance du monde, parce que pour moi, l'outre-mer, c'était tout un tas de pays éparpillés dans le monde, et j'avais le sentiment de pouvoir retrouver quelque chose que j'avais aimé quand j'étais petit. Tu vois, après avoir fait mes études à Paris, ben, j'avais fait un peu le tour. Au bout de 10 ans à Paris, tu travailles à Paris, tu étudies à Paris, ben, tu connais tout le monde, tu as tout découvert. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un au-delà et d'aller vers d'autres cultures. Et RFO, c'était ça, c'était cette ouverture vers le monde, vers des cultures très différentes, parce que la Guadeloupe n'est pas la Martinique, n'est pas la Guyane, n'est pas la Polynésie ou la Calédonie. Et donc, pour moi, c'était vraiment un moyen de découvrir des gens et des cultures, tout en sachant que moi-même, à la base, je ne suis pas français, j'ai été naturalisé, je suis algérien. Et donc, du coup, je me sens algérien, je me sens français, je me sens totalement citoyen du monde. Et j'ai besoin à chaque fois, là où je vais, de me sentir un peu différent, mais d'aller vers les gens, de découvrir ce qu'ils sont derrière. Et c'est cette passion-là qui m'a amené aujourd'hui à travailler dans le pôle Outre-mer. Après, avec des petits allers-retours dans la carrière, ben, voilà, on revient toujours à ses premiers amours, le pôle Outre-mer, RFO, l'Outre-mer. Voilà.
Merci.
Je t'en prie.
Quel est le rôle de directeur d'un média régional ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est effectivement... au-delà du fait de représenter l'entreprise, c'est vraiment de la diriger. Il y a des équipes de journalistes, de techniciens, de gens qui créent des programmes, qui communiquent comme Angèle. Et mon rôle, c'est d'organiser tout ça, de mettre tout ça en musique, de gérer les moyens, mais surtout de m'assurer que chacun puisse faire bien son travail et les conditions pour le faire. Et puis être aussi, j'ai une responsabilité, je suis garant aussi, j'ai une responsabilité éditoriale, bien que n'étant pas journaliste moi-même. Si demain il y a un problème au niveau éditorial, c'est moi en tant que directeur qui emporte la responsabilité. Donc je suis aussi le garant de la qualité des programmes et des contenus que l'on offre à travers la radio, Internet ou la télévision. Donc je dois m'assurer que les journalistes chez nous, par exemple, ben, font bien leur travail sous l'autorité d'un rédacteur en chef, mais qui respectent tout ce que vous a expliqué Lise tout à l'heure sur les questions de déontologie, d'éthique, de vérification de l'information, d'équilibre. On parle beaucoup d'équilibre. La vérité, elle est souvent complexe, elle est souvent multiple. Personne ne détient une vérité absolue. Nous, notre rôle, c'est de mettre un peu comme le rayon de soleil dont parlait Élise, c'est de mettre en perspective les différents rayons de ce soleil quand on a une information. Ce n'est pas de dire c'est ce rayon-là qui est plus important ou celui-là qui est le plus important. Ça, ce n'est pas notre travail. Par contre, c'est d'aller montrer tous les rayons, d'aller les chercher, et c'est vous, en tant qu'auditeur, en tant que citoyen, qui allez vous faire votre avis. Vous prenez cette matière-là, et vous réfléchissez par vous-même, et vous décidez de ce que vous devez en penser.
Hein ? Est-ce un métier facile ?
C'est un métier passionnant. Hein, parce qu'on voit, tu sais, la difficulté, la facilité, quand on aime quelque chose, on s'y met à fond et puis on apprend. Si on accepte toute sa vie qu'on apprendra, chaque jour après l'autre, on apprend, tout est facile. Après, oui, il y a des moments où on peut beaucoup réfléchir. Le soir, on rentre à la maison, on continue de réfléchir à la journée, à un problème que l'on n'a pas réglé. Mais quand on a envie de le faire, ça passe tout seul, c'est très agréable et on se sent utile. On sent une utilité à ce que l'on fait.
Pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de votre média ?
Alors, notre média, au début, il y avait... Alors, ça va être compliqué de refaire toute l'histoire, mais au départ, il y avait l'ORTF, c'était un regroupement de chaînes de télé et de radio qui ont été séparées. Alors, Angèle, j'ai plus la date. C'est dans les années 80-90. L'ORTF a été séparé. On a créé d'un côté Radio France, on a séparé des chaînes. Avant, ça s'appelait La Première, il y avait Antenne 2, il y avait France 3 Région, et il y avait RFO. On a séparé tout ça. Et on a créé des sociétés différentes. Et il y a eu Radio France aussi. Et donc sur l'Hexagone, sur la France, il y avait la radio d'un côté, la télé de l'autre. Et il n'y a que pour l'Outre-mer où on a fait RFO, dans laquelle progressivement on a intégré la radio, parce qu'avant c'était Radio France qui assurait la radio, et à un moment donné, pour l'Outre-mer, on a décidé que c'était RFO qui ferait et la télé et la radio. Et depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années aujourd'hui, on est dans une très forte transformation, parce qu'il y a le numérique, ça vous le connaissez bien, vous êtes né avec, ça fait partie de vos usages du quotidien, et on a compris, nous, de notre côté, que de plus en plus, il fallait aussi qu'on soit présent sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler aux jeunes, si on veut leur offrir des contenus, ben, on le fait aussi sur la télé, on le fait sur la radio, mais il faut aussi le faire sur le numérique. Et c'est important pour nous d'être présents sur le numérique. Donc il y a toute une transformation chez nous pour aller sur le numérique. Et on pourra peut-être en parler tout à l'heure sur la qualité de l'information, pourquoi c'est important qu'on y soit aussi.
Quel est le rôle d'un journaliste ?
Alors un journaliste, son rôle, c'est d'aller livrer une information, d'aller la rechercher, d'aller la vérifier surtout, de la mettre en perspective. Ce sont des personnes qui donnent de la matière pour que vous, en tant que téléspectateur, en tant que citoyen, vous disiez « voilà ce que je vais en faire de ça » et qu'on vous donne des clés de compréhension. Mais c'est surtout pas, comme le disait effectivement Lise, de vous donner notre avis. Parce que c'est vrai, quand on fait un sujet... Même moi, en tant que directeur, j'ai mon avis, j'ai des avis politiques, j'ai des avis sur plein de faits de société. Mon rôle, c'est pas que mes équipes donnent un avis. Et c'est pas le rôle d'un journaliste. Il y a des journalistes qui le font, ce sont des éditorialistes, c'est très particulier, c'est identifié en tant que tel. On sait qu'à ce moment-là, le journaliste donne son avis. Mais un journaliste qui fait un sujet, qui fait un papier, qui fait un son en radio, il est là pour livrer des faits et donner des clés d'analyse. Voilà. Mais pas son avis.
Est-ce la même chose de travailler à la télé qu'en radio ?
Alors la matière à la base, elle est la même. Hein. Après, c'est la technique qui change. C'est le ton qui change. La radio, c'est un média qui est un peu différent de la télé. Chez nous, on dit que c'est un média de l'immédiateté. Quand on a quelque chose, ou de la conversation. Quand on veut livrer une information rapidement, à la radio, c'est très facile. On appuie sur un micro et on envoie. C'est le ton de la discussion, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez un peu la radio, vous en faites. C'est vraiment un temps de conversation où on prend le temps d'échanger avec les gens. Là où la télé, c'est un exercice très formaté. Il y a des standards. Un journal, en moyenne, voilà, c'est 25 minutes, 30 minutes. Un documentaire, c'est 26 minutes, 52 minutes ou 13 minutes. C'est pas 17 ou 18. À la télé, quand on veut enlever une émission, en mettre une autre sur la journée, c'est beaucoup plus compliqué qu'en radio. Donc il y a une question de temporalité qui est différente entre les deux. C'est la grosse, grosse différence. Mais aujourd'hui, avec la radio, on parlait de podcast tout à l'heure avec vous. Aujourd'hui, avec le podcast, on voit qu'on va fouiller un peu plus loin, on va un peu plus loin dans la partie documentaire. À la télé, il y avait beaucoup de documentaires. À la radio, il y avait des émissions, mais aujourd'hui, avec les podcasts, on découvre qu'on fait du documentaire parlé. C'est le podcast. Et on peut le travailler, l'enrichir, l'illustrer avec des sons. Il y a tout un travail d'écriture sur le podcast qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la radio s'élargit un peu plus et elle est très proche du numérique parce que ce que l'on fait en radio, on peut aussi facilement le mettre sur le numérique. Un podcast, une fois qu'il est enregistré, on le met sur une plateforme et les gens y accèdent. Et beaucoup de radios aujourd'hui développent une offre de ce type-là. C'est un média de la créativité, hein, la radio aussi. Hein. Vraiment, vraiment. De l'imaginaire. Tu parlais d'imaginaire tout à l'heure. C'est vraiment l'imaginaire. On influence moins les gens qu'avec de l'image, mais du coup, on laisse cette place à l'imagination avec des sons. J'ai presque envie de dire avec des odeurs, quelque part. La radio, c'est ça. C'est la radio, c'est le média des sensations. Avec la télé, il y a un peu moins de distance par rapport à ce qu'on voit. Puis la radio, on peut l'écouter en faisant du vélo, en courant, en jardinant, en étant assis, avec un casque ou en rêvant, voilà, tout simplement.
Que pensez-vous que cette matinée apportera aux élèves ?
Mais écoute, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup de choses. Je donnais un exemple tout à l'heure à ton professeur. Moi, petit, j'étais dans une classe où on faisait un journal de l'école, qu'on allait vendre aux voisins, et on faisait ça avec des caractères d'imprimerie. Vous n'avez pas connu ça, mais vraiment un journal comme vous le voyez aujourd'hui. Et je pense que ça ouvre l'esprit. Et j'espère qu'on va vous aider encore à continuer à vous ouvrir l'esprit, à vous intéresser au monde, à vous intéresser aux choses, pas qu'à la technique. La technique que vous avez là aujourd'hui, vous voyez, elle vous amène aujourd'hui à nous poser des questions. Vous allez très facilement maîtriser les aspects techniques, mais vous avez dû préparer des questions, vous avez dû vous questionner vous-même pour chercher qu'est-ce qu'il faut comprendre. On a deux invités, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? Et j'espère que ça, effectivement, ça va continuer à vous nourrir par la suite pour continuer à vous ouvrir sur le monde, justement, et à vous intéresser aux choses.
Nous sommes toujours en compagnie de Jelou Belguit, directeur régional de Guadeloupe La Première.
Qu'est-ce qui est le plus motivant dans votre métier ?
Ce qui est motivant, c'est de voir qu'on a une utilité, en fait. Moi, je suis très fier quand on a des émissions, des programmes, des contenus d'information, un journal ou un sujet qui montrent des choses et que les gens en parlent derrière. Et on parle parce que ça les intéresse, hein, pas parce qu'on va faire tant de points d'audience. Ça, c'est des choses qu'on regarde quand on gère, les audiences, les résultats. Okay, mais ce qui me rend fier, c'est que les gens se disent « Oui, ça parle de nous. Et grâce à cette émission, grâce à ce sujet, j'ai appris quelque chose. » Moi, j'adore apprendre tous les jours. Tous les jours, j'apprends. J'ai 53 ans, je continue d'apprendre. Je ne prétends pas tout savoir. Tu vois ? Et ce qui me passionne, enfin, moi, ce qui me motive, c'est de, quelque part, de mon côté, avec ce que je fais dans mon rôle, de mettre aux musiques des choses qui font que les gens vont continuer d'apprendre, découvrir, s'intéresser au monde, tout simplement.
Comment sélectionnez-vous les thématiques abordées dans vos émissions ?
Alors en fait, ce que tu dis là, c'est un peu la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on réfléchit entre nous, au niveau de la direction, se disant qu'est-ce qu'on a envie de raconter à la Guadeloupe. Et à partir de là, on définit une ligne éditoriale. Par exemple, dire est-ce qu'on veut parler de la culture guadeloupéenne, ou plus parler de l'économie, ou plus parler de la sociologie, ou plus parler de la politique. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pour raconter quoi aux gens ? Donc on essaye de définir un cap, et à partir de là, les choses se décident un peu naturellement. Il faut partir toujours de très haut dans l'idée, dans le concept, pour ensuite pouvoir le décliner. Parce que sinon, tu vas faire des sujets au fur et à mesure. Après, sur l'actualité, je vais te dire, la ligne éditoriale est simple, hein, il faut quand même suivre l'actualité. Donc on ne décide pas ce qui fait la vie du pays non plus. Donc s'il y a un fait économique, un fait divers, un fait politique, on se doit d'en parler. Donc ça, tu vois, il n'y a pas... Et s'il y avait une ligne éditoriale, c'est pas de parti pris. Et on donne la parole à tous, mais on donne la parole à tous dans un cadre déontologique, avec une maîtrise éditoriale. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas venir dire n'importe quoi, mais on est là aussi pour poser des questions. Si quelqu'un dit quelque chose à notre antenne, on est là pour le questionner, pour aller le chercher, pour avoir la vérité derrière son propos, derrière ce qu'il dit. C'est ça qui est important. Mais notre ligne éditoriale, aujourd'hui, c'est essentiellement d'essayer de donner la parole à tous en Guadeloupe, Dans ce cadre, je disais déontologique, alors peut-être qu'on pourra y revenir avec Lise pour en parler, c'est vraiment des principes du journalisme qui sont des principes forts. Et on essaye de donner cette parole à tous pour que la société guadeloupéenne et les différentes parties prenantes de la Guadeloupe puissent se parler, échanger, dialoguer entre elles, qu'il y ait des débats contradictoires sur notre antenne. Deux hommes politiques, deux économistes, des enseignants qui viennent parler de l'éducation. S'ils ne sont pas d'accord et qu'ils échangent chez nous, ben c'est tant mieux. Mais de leurs échanges d'idées, il va ressortir quelque chose.
Est-ce qu'avec le développement des réseaux sociaux, les pratiques des journalistes ont évolué ?
Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux changent beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'il y a du bon et du moins bon dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui prennent de l'information qui ne vont pas forcément sur les médias traditionnels et qui s'informent via les réseaux sociaux. Sauf que sur les réseaux sociaux, il y a de vraies informations et il y a ce qu'on appelle les fake news ou les mauvaises informations. Donc nous, ça nous amène effectivement, au-delà de ce que l'on fait en télé et en radio, à être présents sur les réseaux sociaux et voir sur les réseaux sociaux comment on peut apporter un éclairage particulier et comment, vous disiez tout à l'heure, à quoi ça sert qu'on soit là aujourd'hui. Par exemple, nous, à Guadeloupe Première, on est très attentif, mais tout le groupe France Télévisions, on est très attentif à l'information sur les réseaux sociaux. Et on essaye de faire de l'éducation pour que les gens se fassent leur avis et sachent déceler les fausses informations des bonnes informations. Moi, par exemple, aussi, je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, j'y suis aussi, et je vois passer des choses, et puis il y a des choses qui m'étonnent. Je me dis, c'est vrai ou c'est faux ? Et puis bon, quand ça fait une demi-heure que je suis sur TikTok, ça commence à me tourner dans la tête, je me dis, mais c'est quand même une histoire de fou. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je vérifie la source. Je me dis, ok, j'ai vu cette information sur TikTok. Qui l'a publiée sur TikTok ? Est-ce que c'est un organe de presse connu ? Pas connu ? Est-ce que c'est un organe de presse partisan ? Pas partisan ? Est-ce que c'est juste un influenceur ? Et puis derrière, je vais sur les sites de la presse conventionnelle et je vais vérifier. Alors c'est vrai que si je vois une publication d'un média comme Brut ou de la Première, je ne me pose pas de questions, je sais que c'est plutôt vérifié. Mais je peux aller vérifier aussi s'il n'y a pas une version différente du même sujet. Ça peut être tendancieux aussi des fois, personne n'est à l'abri de ça. Mais du coup, je vais systématiquement vérifier sur notre site à nous, sur le site du Monde, sur d'autres organes de presse qui ont pignon sur rue, si cette information circule ou pas, pour savoir si elle est vraie ou pas. Et ça vient percuter le métier de journaliste, parce que du coup, si vous voulez, du fait de ces fausses informations, parfois ça remet en cause la parole des journalistes. On met en doute ce qu'ils racontent, et il y a des thèses complotistes qui sortent. Donc notre travail, au niveau des journalistes, c'est d'être encore plus exemplaire que ce que l'on est, mais surtout d'expliquer comment on assure cette exemplarité. Et puis surtout derrière, et là c'est vraiment la politique, moi ça fait un mois que je suis en poste et on va y travailler, et je l'ai déjà annoncé dans mon programme de travail aux équipes, c'est d'aller faire de la sensibilisation sur comment on vérifie une information, quelle qu'elle soit, comment je vérifie une information. Et c'est vrai aussi sur la presse traditionnelle, quand tu lis un journal, tu as une information, est-ce qu'elle est orientée, est-ce qu'elle n'est pas orientée ? Et on voit que selon certains journaux qui ont des lignes éditoriales différentes, avec des tendances politiques, ben c'est bien d'aller lire la version différente, l'information est juste, et l'analyse qui en est faite peut être un peu différente.
Est-ce que votre média prend en compte le public jeune, et comment ?
Alors, tu me poses une colle. Oui, bien sûr. Non, on a toute une série de programmes qui s'intéressent aux jeunes. Aujourd'hui, le gros enjeu, disons-le, c'est que les jeunes, votre génération, vous êtes beaucoup sur le numérique et beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup, nous, à développer une offre de contenu sur les réseaux sociaux, tout simplement. Pas uniquement pour vous parler que sur les réseaux sociaux, mais vous parler sur les réseaux sociaux et vous amener aussi à regarder la télé ou la radio. Pas que pour nous, il ne s'agit pas que de Guadeloupe la Première. De manière générale, parce que je vous le disais tout à l'heure, tous les contenus sont partout. Et il faut que vous appreniez, vous, à aller vérifier les choses partout, là où c'est. Mais aujourd'hui, oui, on se doit, nous, d'être présents sur une offre sur le numérique. On se développe parce que, au-delà de l'information, il y a aussi des programmes de divertissement que vous regardez, que vous écoutez, et on adapte les formats. Par exemple, votre génération, on sait qu'avec l'habitude des réseaux sociaux, vous avez tendance à regarder des programmes plutôt assez courts. Si je te mets une émission de 50 minutes, tu vas regarder sur ton téléphone, je pense qu'au bout d'un petit moment, tu vas décrocher. Même moi, je décroche au bout d'un moment sur mon téléphone. Donc l'idée, c'est d'adapter aussi la façon qu'on a de construire les émissions. Tu me parlais tout à l'heure de podcasts. Les podcasts qui marchent bien aujourd'hui sur les différentes plateformes, ce n'est pas des podcasts qui font 50 minutes. On a constaté que les podcasts qui marchent, que les gens écoutent, c'est des podcasts qui ne dépassent jamais 9 minutes. C'est un constat international avec la radio du Canada, avec la radio-télévision belge. Donc du coup, quand on construit des choses, quand on rédige des émissions, ben, on fait des podcasts de 9 minutes. Si on a quelque chose à raconter en 52 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on fait X programme de 9 minutes. Mais c'est la même série. Voilà, tout simplement.
Comment faites-vous pour vous assurer que vos sources d'informations sont sûres ?
La vérification, constamment la vérification. C'est le travail des journalistes. Ils sont formés pour ça, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste décréter qu'on est journaliste. Ça s'apprend en école, ça s'apprend sur le terrain. C'est pas toujours facile, on peut se tromper des fois aussi. On peut se faire tromper. Et c'est pour ça que chaque journaliste travaille avec ses collègues et travaille avec des rédacteurs en chef. On n'est jamais seul. Un journaliste n'est jamais seul quand il traite une information. Et quand il a un doute sur la véracité de quelque chose ou d'une source, il en parle avec son rédacteur en chef adjoint et son rédacteur en chef. Et il y a une discussion entre professionnels qui amène cette vérification. Et on va parfois un peu plus loin pour s'assurer qu'effectivement l'information est vraie. Mais c'est un gros travail. Mais ça, c'est vraiment le métier du journaliste.
Quels sont les métiers représentés au sein de Guadeloupe Première ?
Alors, on a un certain nombre de métiers, parce qu'effectivement, il y a les journalistes. Mais pour, par exemple, faire de la radio, mettre le son sur la radio, diffuser la radio, il faut des techniciens. Et donc, on a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des techniciens. Pour la télé, c'est pareil. Il y a aussi des gens qui font de la caméra, qui font du montage. Quand on voit un sujet sur un journal ou un documentaire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit un programme, qui a fait des reportages, donc qui est parti avec un caméraman ou avec un jury, un journaliste reporter d'images. Ils ont fait des images. Après, ils les ont montées, c'est-à-dire qu'ils ont découpé les différentes séquences pour faire un sujet, pour raccourcir tout ce qu'ils ont filmé. Après, c'est mixé, c'est-à-dire qu'on colle la voix sur les images, on s'assure que le son est propre, et après, c'est diffusé. Donc, il y a aussi des techniciens de diffusion. Quand on fait des émissions de plateau, il y a des techniciens du son aussi sur le plateau, il y a des gens qui règlent la lumière, il y a des gens qui tiennent des caméras, et il y a des gens en régie qui envoient par exemple les sujets pendant un journal ou qui changent les images. Vous voyez, quand vous avez des images qui changent, quand vous regardez une émission de télé, ben, il y a un monsieur ou une dame derrière une console qui fait de la commutation, de la réalisation. Donc qui dit je prends l'image de telle caméra ou l'image de telle caméra ou l'image de telle caméra. Ou qui dit au caméraman sur le plateau, ben, tiens, fais-moi un zoom sur l'invité ou son présentateur ou règle-moi le cadre un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc il y a tous ces métiers. Plus les gens qui font de l'animation. Angèle, qui est avec nous aujourd'hui, a longtemps fait de l'animation. Il faut des gens qui animent des émissions. Il faut des gens, après avoir animé des émissions, Angèle a conçu des émissions. Donc il faut des gens qui conçoivent les émissions, qui contactent des producteurs, qui trouvent des chroniqueurs, qui trouvent des sujets pour mettre dans les émissions. Donc il y a des gens dans la création aussi. Voilà. On a tous les métiers. Et puis les administratifs. Les fameux administratifs, voilà, parce qu'il faut gérer l'entreprise, parce qu'il faut signer des contrats, parce qu'il faut payer des missions, il faut prendre des locations de voitures. Quand on fait une captation à l'extérieur, vous savez, une captation, c'est quand on fait un enregistrement à l'extérieur, il faut tout organiser, il faut demander des autorisations pour poser nos caméras, il faut ramener des câbles, il faut ramener de l'électricité, il faut ramener des liaisons numériques pour pouvoir diffuser. Donc il y a tous ces gens-là qui organisent les choses, quoi.
Avez-vous un projet qui vous tient à cœur actuellement ?
Oui, j'en parlais tout à l'heure. Moi, depuis, ça fait un mois que je suis là maintenant. Et mes premiers contacts m'amènent vraiment avec cette envie très très forte de faire quelque chose autour de l'éducation aux médias, avec les établissements scolaires de Guadeloupe, collèges, lycées, dans les écoles. J'ai envie que les jeunes générations s'approprient les codes et décident d'elles-mêmes ce qu'elles doivent faire à l'avenir de l'information qui leur est livrée. Et je veux qu'elles soient en pleine possession de leurs moyens. Donc on est en train, effectivement, on commence tout juste, hein, mais on va faire des actions autour justement de l'éducation aux médias, de la vérification de l'information, ce qu'on appelle le fact-checking, hein, la vérification de l'information. Vous verrez ça si vous regardez les réseaux sociaux. Je souhaite qu'on y travaille beaucoup là, dans les semaines qui viennent avec l'ensemble des équipes de Guadeloupe la Première.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est bon.
Journaliste, presse, médias, investigation, rédaction, information, objectivité, sociologie,
scoop,
collège, Gaston Calmet,
De Grandbourg,
De Marie-Galant.